Saül avait perdu du temps à courir après David, donc lui, il a un boulot énorme pour libérer le pays des Philistins. Ensuite, il a des paroles de sagesse humaine. Et ça, on va le voir dans ce qui se passe après. Abner, fils de Ner, et les hommes d'Ishbosheth, fils de Saül, se mirent en campagne à Mahanaïm et partirent en direction de Gabaon. Joab, ah, on a l'autre côté maintenant, fils de Tseruya. Alors Joab, c'est le neveu de David. Sachant qu'Abner était le cousin de Saül. Donc ils étaient en famille, chacun de son côté. Joab, fils de Tseruya, Tseruya étant la sœur de David. Et les hommes de David partirent aussi en campagne. Aïe! Les deux troupes se rencontrèrent près du réservoir de Gabaon et s'arrêtèrent de part et d'autre du réservoir. C'était un grand plan d'eau apparemment. Abner dit à Joab, voici ce que je te propose. Que des jeunes gens se mesurent devant nous en combat singulier. Et Joab répondit, d'accord. Les deux chefs ennemis se mettent d'accord, n'est-ce pas merveilleux? Alors là, on a un drôle de problème. Parce que visiblement, Abner propose une solution pour éviter la guerre. Les deux armées se trouvent face à face. Vous imaginez la scène? Il y en a une qui a passé son temps à poursuivre David depuis 8 ans, peut-être, avec son chef militaire Abner. L'autre, David n'est pas là, c'est Joab, son chef militaire, son neveu donc, qui en ont eu marre depuis des années de fuir devant Saül et qui en avaient aussi marre que David ne réponde pas. Faut avoir ça en tête. Ils ont vécu ces années de fuite, eux, de leur côté. Toujours s'enfuir. Et Saül les poursuivait. Et Joab, on va le voir plus tard. Joab, il en avait assez. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui, une fois, conseille à David, mais enfin, tue-le, quoi. J'ai dit, non, j'ai pas le droit. Donc, vous voyez, il y a un petit peu des deux côtés un ras-le-bol. Et quelque part, on sent que cette guerre leur échappe. Pourquoi? Parce que ce n'était pas leur guerre, finalement. En tout cas, pour Abner, ce n'était pas sa guerre. C'était la guerre de Saül contre David. Parce que Saül était rempli de haine et de jalousie envers David. Mais lui, Abner, c'était le chef militaire, il exécutait les ordres. En plus, il s'était bien fait moquer par David, il ne devait pas être très content. Donc ils se retrouvent là les deux face à face et je pense qu'au fond de leur cœur, c'est des gens qui ont quand même une conscience qui se disent « Qu'est-ce qu'on fait là? On va encore se battre ?» Et Abner, c'est là qu'on voit un peu son caractère. Abner, il cherche une solution logique, humaine. On voit déjà qu'il avait déjà été dans ce domaine de la logique et là, il y reste. On va chercher une solution moins meurtrière. Et je pense que c'était courant, mais l'exemple le plus proche qu'on a, c'est Goliath. Il était là, Abner. Ah oui, j'ai vérifié. C'est lui-même qui a conduit David à Saül. Abner, il s'est rappelé que quand les Philistins ont menacé Israël, ils ont pris un champion appelé Goliath. Et qui est-ce qui veut se battre contre lui? Celui qui gagne. Il remportera la victoire, et si c'est vous qui perdez, c'est les Philistins avec Goliath qui gagneront. Alors, il reprend cette idée, à mon avis, mais je pense qu'il y a d'autres peuples qui devaient l'utiliser. Je crois me souvenir chez les Grecs, il y a eu aussi dans l'histoire grecque des événements de ce genre. C'était pas bête pour éviter un bain de sang. C'est une solution humaine intéressante. D'autant plus que ce qu'il propose, c'est même pas vraiment une guerre. D'après ce que j'ai lu, le mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot de lutte. La lutte un peu comme aux Jeux Olympiques. C'est une lutte, ce n'était pas une guerre pour tuer. Voyez, et c'est là qu'on voit comment il raisonne, Abner. On commence à rentrer dans sa tête, là. Il se sent mal à l'aise, il n'a pas envie d'un bain de sang, mais surtout pas d'une guerre civile. Ce n'était pas sa guerre, c'était la guerre de Saül. Et il cherche une solution. Et c'est tout à son honneur, quelque part. On va lui donner raison, pour l'instant. Il se dit, allez, c'est un jeu martial, en quelque sorte. On va mettre 12 champions de chaque côté. Et ils vont lutter ensemble. Et puis voilà, celui qui gagnera, son peuple gagnera. Voilà, c'est bon. Donc Judas va présenter 12 champions et les autres tribus d'Israël, Benjamin en particulier, puisqu'ils étaient de la tribu de Benjamin, Abner et Saül, se trouvent face à face. Alors jusque-là, eh ben écoutez, je trouve que c'est une très bonne idée pour éviter la guerre, éviter un bain de sang. Mais est-ce que c'était la meilleure idée? Est-ce que c'était l'idée de Dieu? Parce que horizontalement, effectivement, c'est une très bonne idée pour éviter la guerre. Mais est-ce que c'était l'idée de Dieu? Est-ce que c'était la solution que Dieu aurait proposée? La solution, elle est évidente, on la trouve au chapitre 3, au verset 10, et Abner va la trouver, mais il la trouvera trop tard pour lui en tout cas, malheureusement. Mais il est en chemin, là. On va essayer d'éviter un bain de sang. Et les deux troupes se rencontrèrent. Abner dit à Joab, voici ce que je te propose, que des jeunes gens se mesurent. D'accord, ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ish-Bosheth, et 12 parmi les hommes de David. Ah, jusqu'ici tout va bien. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonce l'épée dans le flanc, ils tombèrent tous ensemble. Aïe, la bonne solution humaine n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils ont agi par traîtrise au lieu de faire une bonne lutte olympique? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien parce que les solutions humaines, elles ne tiennent absolument pas compte du cœur de l'homme, du péché. Comme je vous ai dit, ces 12 champions, j'imagine que c'était des gens qui avaient suivi l'un et l'autre, leur chef militaire. Du côté d'Abner, ils sentaient qu'il y avait du danger, que ce David avait énormément de succès et que ça allait mal tourner pour eux. Et Saül les avait prévenus. Saül leur avait dit, vous savez, si David devient roi, vous verrez, vous perdrez tous vos privilèges. Vous vous souvenez de ce texte? Il dit, ah, c'est fini, tous les privilèges que je vous ai donnés, c'est fini. Donc, ils étaient là, les 12 champions, se disant, oh, oh, on a intérêt à gagner. Puis les autres en face, mais on a marre, ça fait des années qu'on fuit devant eux et que David ne fait rien, il se laisse faire, mais c'est pas possible. La confrontation, du coup, au lieu d'être une lutte à l'amiable, est une pure traîtrise des deux côtés. Le problème, c'est qu'ils ont pensé la même chose des deux côtés. Parce que le cœur humain est le même des deux côtés. Le péché est là, le ras-le-bol, la colère, la haine, la jalousie peut-être chez certains d'entre eux. Et clac, ils ont agi par traîtrise des deux côtés. Fallait le faire. Alors là, Abner est hyper mal à l'aise. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? On donna ce nom à ce lieu, Gabaon, le nom de Etzal-Sourim. Il y eut en ce jour-là une bataille extrêmement rude, dans laquelle Abner et les hommes d'Israël furent battus par les hommes de David. Donc, s'ensuit une bataille, tout ce qu'il avait voulu éviter, s'ensuit une bataille épouvantable, et les hommes de David poursuivent. Là, ils en ont vraiment marre, les hommes de David. Donc, David les a retenus pendant 8 ans à peu près. Hein. Là, ça commence à déborder. Et alors, il s'ensuit une histoire épouvantable. Il y avait là les 3 fils de Tseruya, donc de la sœur de David, donc c'est ses 3 neveux, Joab, qu'on connaît déjà, Abishai et Azaël. Azaël était rapide comme une de ces gazelles qui courent dans la campagne. Un sportif, un coureur, bon coureur. Et lui, il a décidé de poursuivre Abner. Il poursuivit Abner sans s'écarter de ses traces, ni à droite ni à gauche. Ah, lui, il avait une tête chercheuse, hein, comme les missiles. C'était Abner et rien d'autre. On fonce, on lui fait la peau, et, honneur suprême, on emmène sa dépouille. Ah, réfléchissez un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il avait vu étant jeune, Azaël? Il avait vu David revenir avec la tête de Goliath. Et en fait, dans sa tête, c'était clair. Je vais revenir avec la dépouille de ce fichu Abner qui nous pourrit la vie depuis plus de 8 ans. C'était clair. Et Abner se retourne. Et c'est là qu'on voit la conscience d'Abner. Il est en chemin, Abner. Et demande, est-ce toi, Azaël? Non, il le connaissait. Hein. Il répondit, oui, c'est moi. Et Abner lui dit, écarte-toi, à droite ou à gauche, mais attrape l'un de ces jeunes gens et dépouille son cadavre. Il avait bien compris que ce qu'il voulait, c'était la dépouille. Hein. Mais Azaël ne voulut pas se détourner de lui. Il était déterminé, Azaël. Toutes ces années, il en avait assez. Hein. Abner dit encore à Azaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi est-ce que je devrais t'abattre ?» Ah, là on voit un peu le cœur d'Abner. Il en a marre de la guerre. C'était la guerre de Saül. Et maintenant là, il est sur le point de tuer le neveu de David. Ah non, 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 ça il ne peut pas faire. Et il est bloqué là. Pourquoi est-ce que je devrais te tuer? Et j'aime beaucoup ce qu'il dit après. Comment pourrais-je ensuite regarder en face Joab, ton frère? Pourquoi il a envie de regarder Joab en face? On voit bien qu'il en a ras-le-bol de la guerre, il a envie d'arrêter tout ça. Mais là, il est coincé. Hein. Sa bonne idée n'a pas donné beaucoup de fruits. Parce que la bonne idée, c'était celle du chapitre 3, qu'on va voir après, verset 10. C'était de reconnaître David comme roi, d'obéir à ce qu'avait dit Saül. Même Saül l'avait dit, tu vas être roi sur Israël et tu seras un bon roi. Quel dommage. Mais Azaël refusa de se détourner. Ah, il était persévérant celui-là. Hein. Parce qu'il s'était mis en tête que pour lui, c'était bon de récupérer la dépouille d'Abner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance. Alors là, c'est un peu gore. Et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient à l'endroit où Azaël était tombé mort s'arrêtaient. Ça voulait dire vraiment, c'était une catastrophe. Tous les gens qui arrivaient, catastrophe, le jeune Azaël a été tué. Et si on regarde bien le texte, moi j'avais pas fait attention, c'est que Abner n'a pas voulu tuer Azaël. Les lances à cette époque avaient évidemment ce côté pointu en haut pour se battre, mais en bas, au bout du manche, il y avait une petite pointe qui permettait de les enfoncer facilement en terre quand on s'arrêtait. Parce qu'on jetait pas sa lance par terre comme ça, hein, comme un balai. On le plantait en terre pour qu'elle reste propre, pour que le fer ne soit bien propre, qu'il ne soit pas rempli de terre, etc. Qu'il reste bien coupant aussi. Donc, il y avait une petite pointe au bout, effectivement, qui permettait de rentrer comme ça en terre. Et comme il était poursuivi par Azaël, et qui venait de lui dire, enfin, pourquoi est-ce que je devrais t'abattre? Il continuait à courir. Donc, l'autre lui courait derrière. Il a essayé de le faire partir en faisant ce geste. Et évidemment, l'autre était tellement enragé, il s'est carrément empalé sur la lance d'Abner. Tous les commentateurs sont d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est ce qui ressort bien du texte. Et là, j'imagine la catastrophe pour Abner. Il ne voulait pas tuer Azaël. Il ne voulait certainement pas de cette guerre. Mais il a toujours trouvé des solutions humaines. Cette guerre lui pèse. Il la continue sur sa lancée. Et on va voir après comment il réagit. Joab et Abishai poursuivirent Abner. Et là, je pense qu'ils avaient un motif de plus de tuer Abner. Et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Ama, qui est en face de Guilla, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rassemblèrent derrière Abner, formèrent une troupe et s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab. Et voyez un peu le cœur d'Abner, là. L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne saisis-tu pas que cela finira par de l'amertume? On y était déjà. Hein. Et alors là, moi, ce que j'aime, c'est la phrase suivante. Quand finiras-tu par dire aux hommes de ne plus poursuivre leurs frères? Non, mais vous rendez compte qui est-ce qui dit ça? Lui, Joab, qui a poursuivi David pendant plus de 8 ans. Abner, oui. Qui a poursuivi David. Alors, c'est bien, vous écoutez bien. Qui a poursuivi David pendant plus de 8 ans. Et il dit à Joab. Non, mais c'est ça, j'ai trouvé ça trop fort, je l'ai relu 10 fois, ce truc-là. Quand finiras-tu par dire aux hommes de ne plus poursuivre leurs frères? Lui qui a poursuivi ses frères pendant des années. Parce qu'il avait compris quelque chose. Humainement, il avait compris que ça suffisait, cette guerre civile. C'était la guerre de Saül, c'était pas la sienne, c'était pas la peine de continuer. Il faut s'arrêter. Mais ce que j'aime bien, c'est la façon dont il le demande, comme si c'était Joab qui devait dire aux gens de s'arrêter. Ça, c'est marrant. Joab répondit, par la vie de Dieu, si tu n'avais pas parlé, les hommes n'auraient pas cessé de poursuivre leurs frères. Et c'est le mot qui revient. Vous savez, quand on voit un texte comme ça, faire attention aux mots qui sont répétés. Et il vient de dire, à poursuivre leurs frères. Et Joab reprend, oui, leurs frères, avant le matin. Et Joab sonne de la trompe. Il est raisonnable, Joab, finalement. Là, il me surprend quand même. parce qu'après il me déçoit. Mais là il me surprend vraiment, il écoute. Il sonne de la trompe, tous les hommes s'arrêtèrent et ils ne poursuivirent plus Israël et cessèrent le combat. Après, Abner et ses hommes marchent toute la nuit, rentrent chez eux et Joab, de son côté, va rentrer chez lui. Alors, le personnage d'Abner m'a fait bien réfléchir maintenant qu'on possède à peu près le texte. La première rencontre avec David, je vous ai dit, c'était au moment de Goliath. Il a vu les capacités de David, il a surtout vu sa foi. L'autre rencontre, c'était un peu humoristique, hein. David est venu faucher la cruche et la lance de Saül et s'est moqué d'Abner en disant bah, « dis donc, tu ne surveilles pas très bien ton roi, toi, hein, dis donc ». Bon, il y a de l'humour dans la Bible de temps en temps. Là, c'est peut-être un peu de l'humour noir, mais... Et puis, on ne sait pas s'il était présent à la bataille avec Saül, où Saül est mort. On n'a rien qui nous le dit. Est-ce qu'il a échappé aux Philistins ou est-ce qu'il n'était pas à cette bataille? On n'en sait rien. C'est curieux, mais bon, peut-être il a échappé. Son problème, c'est qu'il reste sur la lancée de Saül, comme j'ai dit. Il a accompagné Saül à la poursuite de David pendant des mois et des mois. Saül est mort, mais il continue. Il est comme sur sa lancée, hein, comme sur un toboggan. Boum, la guerre a commencé, on continue, mais il ne sait plus trop pourquoi. Il continue une guerre dont la cause n'existe plus. C'est ça qui est un peu bête. La haine et la jalousie de Saül ont disparu avec lui. Et c'est ça qui explique effectivement son malaise. David est maintenant roi sur la tribu de Juda. Il a réussi son premier test, on a vu tout à l'heure. Il est installé à Hébron avec ses troupes. Et c'est Joab, son neveu, qui va faire face à Abner. Et ça, c'est un petit peu curieux parce que, curieusement, David n'accompagne pas ses troupes. Il est roi maintenant. On verra que David, souvent, quand il ne va pas à la guerre, il fait des bêtises, mais on va voir un petit peu plus tard que c'est dommage qu'il n'était pas là, mais bon. Abner, donc, on a vu, il est mal à l'aise dans la confrontation et il agit par loyauté envers la maison de Saül, mais il est mal à l'aise. Alors, le problème, c'est qu'on s'aperçoit au chapitre 3, verset 10, depuis le temps que j'en parle, je vais quand même vous le lire, même si ça nous fait déborder sur le texte de tout à l'heure. Il dit à Ish-Bosheth, on verra tout à l'heure pourquoi, « Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute cela », c'était une façon de faire un serment, « si je n'agis pas envers David selon le serment que le Seigneur a fait à David de retirer la royauté à la maison de Saül et d'établir le trône de David sur Israël et Juda, depuis Dan jusqu'à Bersabée. » Ah, ah, il était au courant. Il était au courant. Mais alors, s'il était au courant, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas tenu compte? Pourquoi est-ce qu'il a continué la guerre? Pourquoi il a attendu de se fâcher avec Ish-Bosheth pour revenir à la parole de Dieu? Alors, on va expliquer après pourquoi, mais... Donc, il savait. Il savait qu'il savait. Mais il a préféré s'appuyer sur la sagesse humaine plutôt que d'aller vers le plan de Dieu. Et là, on va se sentir très proche d'Abner. Très, très proche. Il agit comme les peuples voisins. Il installe le fils, comme j'ai dit tout à l'heure, comme roi. Il agit par loyauté. Tout ça, c'est humain, c'est logique et c'est politiquement correct. Il ne consulte pas Dieu. Ben, il n'en a pas besoin, n'est-ce pas? Puisqu'il agit logiquement. Attention à notre logique humaine. La loyauté et la logique, ça ne fait pas tout. Les choses se corsent un peu quand les deux armées se retrouvent face à face, vous avez vu, près d'un point d'eau. Et c'est là qu'on sent vraiment le malaise d'Abner. Il est habitué à se battre contre les Philistins. Et là, ce qu'il a en face de lui, c'est le neveu du vainqueur de Goliath, qui représente une seule des tribus d'Israël, et lui représente les 10 autres. Donc logiquement, il est plus fort. Il représente 10 tribus. Bon, mais il est quand même mal à l'aise, parce qu'il sent bien que la cause de cette guerre n'est plus là. Et puis, il sent qu'on va vers une guerre fratricide, une guerre civile. Les tribus vont réellement se battre entre elles. Joab, on voit bien qu'il n'est pas à l'aise non plus, puisqu'il accepte tout de suite la proposition de 12 contre 12, 12 champions. Mais ce qui est curieux dans ce texte, c'est que ni l'un ni l'autre ne va consulter Dieu avant la bataille. Oh ben c'est pas grave, c'est juste 12 personnes contre 12 personnes. Ça va être une lutte à l'amiable, une lutte un peu comme aux Jeux Olympiques. Bon, ils auront quelques bleus, mais bon, ils ne vont pas se tuer. Hein. Mais ni l'un ni l'autre ne va s'attaquer à la cause profonde de la confrontation. Ils en font un jeu. Ils en font un jeu. Ils proposent une solution politiquement correcte, une solution raisonnable et la moins meurtrière possible. Qui pourrait lui donner tort? En fait, Abner se présente comme un homme sage, qui, tout en restant un peu hostile à David et à sa tribu, il veut éviter la guerre et il propose finalement les mêmes méthodes que les Philistins avec Goliath. C'est les méthodes de l'époque, c'est les méthodes du monde quand on ne veut pas un bain de sang. Une compétition amiable pour gens civilisés. Mais personne ne consulte le Seigneur, ni même le roi. On ne voit pas Abner parler avec Ish-Bosheth et on ne voit pas non plus Joab voir David quand même. C'est curieux ça. C'est pour ça que je dis c'est dommage que David n'était pas là. En fait, le problème d'Abner, c'est qu'il ne tient absolument pas compte du péché. C'est-à-dire la colère, le ressentiment, le sentiment d'injustice. Terrible chez Joab, ce sentiment d'injustice. Mais purée, on est confronté à ces gens depuis des années, ils nous poursuivent dans les déserts, ils font tout pour nous embêter, ils nous menacent. C'est pas possible. Le péché a rongé les soldats de David, poursuivis par des années de désert. Ces gens-là ont risqué leur vie, et rappelez-vous, ils ont failli perdre leur famille. Quand il y a une bande d'Amalécites qui est venue leur faucher tous leurs biens, leurs animaux, leurs enfants et leurs femmes. Voilà, c'était le bouquet. Ils ont vécu tout ça à cause de l'armée de Saül. Donc, proposer des champions, c'était une belle idée humaniste, logique, mais ça ne tient pas compte du péché, ça ne tient pas compte de la souffrance de ces gens, ça ne tient pas compte des ressentiments qui nourrissaient depuis des années. Et pareil pour les soldats de Saül qui poursuivaient sans cesse David, ils devaient en avoir marre par moment. Il y avait autre chose à faire avec les Philistins qui menaçaient aux frontières, et au-delà des frontières même. Et puis ce David qui en plus les narguait de temps en temps. Et puis il leur échappait tout le temps, parce que Dieu était avec lui. Donc, Abner n'a pas tenu compte du cœur de l'homme. La logique, le politiquement correct, l'humanisme, ça ne répond pas à tout. Et je pense combien de fois dans nos vies, on va perpétuer aussi, alors ça peut être des inimitiés, ça peut être des jugements, parfois c'est des rejets, des souffrances, des attitudes qui sont héritées et qui nous posent des problèmes à nous et aux autres. Et si on n'en cherche pas l'origine, eh bien, on ne s'en sort pas. Les meilleures idées et la plus grande sagesse n'arriveront pas à bout. Et là, je pense que j'ai travaillé un petit peu là-dessus cette semaine. Je pensais, je crois que c'est Colomba de Mérimée, hein, ce livre, j'espère que certains l'ont eu à l'école, c'est intéressant, où on voit ces familles corses, hein, je crois, hein, qui sont dans la vendetta, une famille contre l'autre, et ils sont prêts à s'entretuer, et certains ne savent même plus pourquoi ils s'entretuent. Et il y a des problèmes parfois dans nos vies, des choses qui restent dans nos vies. Alors, j'ai cité les inimitiés, les rejets, les attitudes, les jugements, mais il peut y avoir des tas d'autres choses qui sont là dans nos cœurs, qui sont héritées peut-être de nos parents, de nos grands-parents, parce que dans ma famille, on n'a jamais aimé ça, ou bien, ma grand-mère, elle supportait pas ça, et ma mère non plus, et moi non plus. Est-ce qu'on sait pourquoi? Quelquefois, on ne sait même pas. Mais on ne supporte pas. Moi, ça, j'en connais des gens comme ça. Des gens qui sont racistes de père en fils. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne sauraient même pas l'expliquer, d'ailleurs. Mais c'est des choses qui restent et qui bouffent le cœur de l'homme complètement, qui le rongent. Et toutes nos solutions sages, humaines, raisonnables, logiques, politiquement correctes, ne tiennent pas compte de ça. Elles ne tiennent pas compte que dans le cœur de l'homme, il y a toutes ces inimitiés, ces jugements, ces rejets, ces souffrances. Il y en a des souffrances qui font que les belles solutions humaines, elles ne servent pas à grand-chose, elles font même encore plus de dégâts. Si Abner avait réfléchi un tout petit peu, en se disant, on fait une guerre idiote, ça il en était conscient, mais pourquoi on l'a fait? La cause a disparu. Maintenant, on va chercher Dieu et faire sa volonté. Il va le faire quand il est pratiquement trop tard. Il va y perdre la vie, le pauvre. C'est dommage. Je pense qu'il n'aurait pas perdu la vie s'il avait trouvé cette solution dès le début. Elle était là dans son cœur. Pourquoi il ne s'en est pas servi? Et en fait, je m'aperçois que si on traite les problèmes, et pour moi c'est le problème d'Abner, il a traité la situation horizontalement. Complètement. Il a agi le plus sagement qu'il pouvait, vu les circonstances. Et il n'a jamais, enfin jamais au début, jusqu'au chapitre 3, verset 10, il n'a jamais tenu compte de la dimension verticale. Et je pense que pour nous, c'est pareil. C'est pareil. Si on règle nos soucis, nos problèmes, nos difficultés en tout genre, mais que ce soit au travail, que ce soit dans les familles, ça, si on reste sur un plan purement horizontal, les relations humaines, hein, la sagesse, le savoir-faire, la logique, le raisonnable. C'est pas mal, mais parfois on fait encore plus de dégâts. Parce que la vraie solution, elle est verticale. C'est d'aller vers le Seigneur. Regardez à quel est l'appel de Dieu pour nous. Quelle est la volonté de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu nous recommande. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à notre place, hein. On aime tous cette petite phrase. What would Jesus do, hein, les petits bracelets des jeunes, là. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et là, on a une autre dimension qui nous sort de notre marasme. Et d'ailleurs, c'est effectivement comme ça que David va pouvoir devenir roi d'Israël. C'est quand, enfin, Abner va comprendre. Malheureusement, il y perdra la vie parce que, comme il a tué en se défendant, il était en légitime défense, comme il a tué Azaël, évidemment, Joab ne lui pardonnera jamais. Bêtement, hein, franchement. S'il n'y avait pas eu ça, s'il s'était tout de suite tourné vers la solution de Dieu, il aurait été co-chef militaire avec Joab et c'était bon. Alors Abner, ce qui est dommage, c'est qu'il va dans la bonne direction. Il évite la guerre fratricide, il essaie d'éviter la guerre civile. Soyons civilisés, allez, on va s'affronter, mais modérément. Consommer avec modération. Il fait une sorte de compromis, mais ça ne marche pas. Ça semble pourtant bien. Moi, la première fois que j'ai lu, je dis, ah, c'est intelligent, ça. Hein, pour des gens comme ils étaient sauvages à l'époque, au moins, au lieu de tuer 500, 600, 700 personnes, bon, au pire, il y en aura 24. Hein, il y en a eu 24. Dommage. En plus, ça devait être les meilleurs guerriers. C'est vraiment stupide. Ça aurait été tellement mieux de consulter Dieu ensemble. D'autant plus qu'à côté de David, il y avait le grand prêtre, Abiathar. Il était là. Il était accessible. Ish-Bosheth était dans une ville de Lévite. Il y avait des prêtres. À Hébron aussi. S'en tenir à la parole de Dieu, prononcée par Samuel sur David et sur Saül, ça aurait été tellement, tellement plus simple. Si seulement Abner et Joab s'étaient mis d'accord pour consulter Dieu ensemble et aller voir Abiathar, au lieu de proposer des solutions humaines. Là, Abner, il aurait compris plusieurs choses. Il aurait compris que son roi, Saül, a été rejeté, qu'il est mort à la bataille parce qu'il n'a jamais voulu se repentir. Il aurait compris que Samuel avait prophétisé que la royauté lui avait été retirée, qu'elle avait été donnée à David. Il le savait, mais il fallait que ça remonte un peu. Il aurait compris que David avait manifesté clairement son respect et son pardon envers Saül, particulièrement, on l'a vu la fois dernière avec Jabesh. Il aurait compris qu'il pouvait effectivement cesser le combat complètement et retrouver une réelle unité nationale. Parce qu'au fond, c'est ça qu'il voulait Abner, une unité nationale. Il ne voulait pas qu'on se batte entre frères. En se soumettant à la parole de Dieu et en combinant leurs forces pour repousser les Philistins. Ils avaient de quoi faire, hein, parce qu'ils avaient profité du temps de Saül, les Philistins, pour vraiment rentrer. Et ils avaient même coupé les tribus du sud des tribus du nord pour les affaiblir. Le problème, c'est qu'Abner va arriver à ces conclusions-là, mais beaucoup trop tard et pour les mauvaises raisons. Ils auraient, de chaque côté, Joab aussi, hein, pu se poser la question sur le pourquoi de cette guerre. Et là, je pense que je vais rejoindre ce que Olivier dit souvent, le pourquoi. Parfois, il faut se poser la question. Les adolescents ont raison de se poser des pourquoi. Hein, il y a quelque chose qui m'énerve, moi, dans les magasins. Je ne sais pas, ça m'arrive souvent, je ne sais pas pourquoi. J'entends des enfants à la caisse qui parlent avec leurs parents et qui disent « Pourquoi ceci? Pourquoi cela ?»« Parce que c'est comme ça !» Je garde mon calme et j'ai envie de dire « Mais enfin, ce n'est pas une façon de répondre à des enfants. Parce que c'est comme ça. » C'est quelque chose qui me révolte. Moi. Enfin, ça fait partie de mes mes problèmes. Il faut se poser les pourquoi. Et c'est bien que les adolescents se posent les pourquoi. C'est bien que les jeunes se posent des questions sur le pourquoi des choses. Mais il y en a marre de faire les choses sans réfléchir, comme Abner. Allez, on est sur notre lancée, il faut faire la guerre. Je sens ça pas très bien, mais j'y vais quand même. Attends. Pourquoi ? C'est important de se poser la question. Et nous aussi, chrétiens, se poser la question, pourquoi est-ce que je suis dans l'armée, non pas de David, mais du fils de David ? Vous savez, dans le Nouveau Testament, on dit souvent Jésus, fils de David, dans le sens que David avait été un grand roi et Jésus est notre roi. Bon, parfait, lui, heureusement. Mais pourquoi est-ce que je suis dans l'armée du fils de David ? Ça vaut le coup de se poser la question. Quoi, à l'Église, on dit qu'on est une armée qui se bat, on a des combats, tu sais que c'est que tout ce vocabulaire hostile. Et puis se dire, est-ce que c'est mon choix d'être dans l'armée du Seigneur ? Non, ça vaut le coup ? Ou est-ce que j'y suis parce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc., y était ? Ou est-ce que c'est juste comme ça, comme Abner, on continue ? Ou est-ce que c'est même le choix de quelqu'un d'autre ? Ça vaut le coup de se poser la question. Même si on a 9 ans, 10 ans, 11 ans, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je suis là ? Pourquoi je suis à l'église ? Pourquoi est-ce qu'on me conseille de mettre l'armure d'Éphésiens 6, casque du salut, etc. Vous connaissez tout ça par cœur. Pourquoi on me conseille ça ? Ben oui, il faut se poser la question, pourquoi ? Parce que finalement, si on regarde le monde comme ça, c'est sympa, on vit dans un pays relativement civilisé. Bon, il y a plus de 100 morts de femmes battues chaque année, mais bon, on est civilisé. Et puis, oui, on est officiellement, on est civilisé. Mais on essaie de nier que dans le cœur de l'homme, le péché est toujours là et que les trucs vont ressortir. Comme dans nos 12 champions, nos 24 champions. C'était là. Et les belles solutions humaines, rationnelles, faites dans les conseils de sécurité, les conseils de l'Europe, les machins, ils partent du principe que l'homme est raisonnable. Lisez les journaux, vous verrez qu'il est raisonnable, effectivement. Pourquoi prier ? Tiens, ça aussi, c'en est une. Pourquoi prier ? Je me souviens, d'un sens, il avait raison, mais ça m'avait un peu agacée. Le mari de notre gardienne, c'était Louis, hein, oui. Il y a très longtemps, qui avait dit, mais enfin, pourquoi on prie tout le temps, puis on répète toujours la même chose ? À quoi ça sert ? Mais Dieu n'est pas sourd, et quand on lui dit les choses une fois, il est suffisamment intelligent pour s'en souvenir. C'est pas idiot. Si vous vous posez la question, les jeunes, c'est une bonne question. Mais oui ? Pourquoi prier ? Pourquoi répéter les mêmes choses ? Ben, je me la suis posée aussi parce que je trouve que ça vaut le coup de se la poser. Pourquoi prier ? Répéter les mêmes choses ? Mais le problème, c'est que la prière, elle n'est pas faite pour Dieu. Elle est faite pour nous. Vous savez, les instruments qu'on utilise, c'est mieux quand c'est fait pour la bonne personne. Si vous donnez un grand couteau comme ça à un petit garçon, oui, il va être très content. Mais bon, ça dépend de la personne qui l'utilise. Et en fait, la prière, elle est faite pour nous. Parce que quand je prie, je reconnais que je ne peux pas tout faire. Je reconnais que je ne suis pas la plus maligne, la plus intelligente, etc., ou la plus sage. Je reconnais que je suis obligée de demander plusieurs fois à Dieu la même chose, aussi pour me dire, bah, je dépends de Dieu, je dépends de Dieu, je ne suis pas tout puissant, moi, etc. En fait, c'est pour nous qu'on prie et qu'on reprie et qu'on reprie. Parce que nous, on oublie vite, hein, quand tout va bien. Bon, soyons honnêtes. Vous avez une semaine géniale au travail. Il y a des trains à l'heure. Ah, elle serait contente, Florence. Tout va bien, il y a du soleil. Les amis sont gentils. Les ennemis nous fichent la paix. Bon, vous imaginez tout ce qui vous fait plaisir. Il y a des bonnes notes en classe. Il y en a qui sont habitués aux bonnes notes, mais bon, je pense que c'est le cas de tout le monde ici, bien sûr. Bon, tout va bien. Honnêtement, mais soyons honnêtes, est-ce qu'on a envie de prier ? Bon, peut-être il n'y a que moi. Hein. Mais franchement, ça nous vient forcément moins à l'esprit. Soyons honnêtes. Par contre, imaginons la même semaine où tout va mal de tous les côtés. Moi, je suis sûre qu'on prie beaucoup plus. Bah oui, parce qu'on sent qu'on est dépendant de Dieu. On n'arrive pas à s'en sortir, ça va mal, on se sent mal. Oh, puis il y a du danger, puis il y a ceci, puis il y a cela. Ben oui, parce qu'on est humain. Parce qu'on est humain. Alors, il ne s'agit pas de juger quoi que ce soit, on est tous pareils. Bon, il y en a peut-être qui ont, comme disait Wimber, on a tous des thermomètres différents là autour de nous. Il y en a qui sont très bons dans la prière, d'autres qui sont très bons dans les relations humaines, d'autres qui sont bons dans la prière mais moins bons dans les relations humaines. Bon, voilà, on a tous nos défauts, nos qualités, nos points forts, nos points faibles. Mais en général, quand ça va mal, on va se tourner vers Dieu. Et c'est là qu'on peut dépendre de Dieu. C'est là qu'on peut apprendre de Dieu. C'est là qu'on est obligé parfois de répéter et on trouve ça un peu stupide. Ça fait 10 fois que je lui dis. Ben oui, j'affirme ma dépendance. Vous voyez, c'est pas simplement que lui, il a besoin de l'entendre. Il a besoin simplement de voir que j'ai compris que je m'en sortirai pas toute seule. Pourquoi s'attacher à la parole de Dieu? Oh, alors là, oui. Pourquoi s'attacher à la lecture de la Bible? Alors, c'est où c'est dépassé, ce qui est faux, mais bon, ou j'en sais assez. Bon, on n'en sait jamais assez. La manne, il la mangeait fraîche tous les jours. Il n'avait pas le droit de la stocker, elle pourrissait. Donc, comptons pas sur ce qu'on a appris, ce qu'on sait. Moi, je suis confrontée à ça tous les ans avec le mois de la famille où je me dis, oh, c'est un texte que je connais bien. Et puis, je le travaille, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, hein, toute la semaine, et je me dis, ah, mais j'avais pas vu tout ça. Elle a une qualité, cette Bible, c'est qu'elle est d'une richesse. Si on veut bien chercher, on peut creuser. Parce qu'en fait, je trouve que Dieu a pris un malin plaisir, enfin un plaisir divin, à suggérer les choses pour qu'on les cherche. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, tu es un Dieu qui te cache, ô Éternel. Il ne veut pas le Dieu presse-bouton, j'appuie, ça tombe, c'est bon, je mets ma pièce. Il y a une recherche, il y a une volonté de chercher avec Dieu. Ça, c'est net, hein. Et je le vois chaque année quand je travaille mes textes, des textes que je connais presque par cœur, et je me dis, j'avais pas vu ça. Je vous assure, quand j'ai lu Abner au début, j'avais vraiment des mauvais sentiments sur cet homme. Ah. Puis après, j'ai dit, ah mais non, mais ce pauvre, il était en chemin, il a avancé tout doucement. Trop tard, mais il a avancé. Vous allez voir que c'était trop tard, mais c'était quand même, il a avancé dans le bon sens. Donc pourquoi lire la Bible? Ah oui, vous posez peut-être la question, là, les monitrices d'école du dimanche, surtout moi, je vous enquiquine avec ça. Lisez votre Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, le problème, c'est qu'on a l'impression de la connaître. Ah oui, le fils prodigue, Moïse, le prince d'Égypte. Oui, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. La Bible, c'est quelque chose qui va vous donner des clés pour la vie, vous donner des clés sur la façon de vivre. Vous voyez là, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir? Ben, Abner, par son raisonnement, il a fait pire. Et combien nous, parfois, par notre raisonnement, on peut faire pire, au lieu de chercher ce que Dieu veut pour nous. Pourquoi ne pas adopter une approche plus moderne? Ah, ça c'est la mode. Hein. André avait un excellent article cette semaine, je crois qu'il vous l'envoie. C'est un adventiste hein, qui a fait un truc sur le postmodernisme, magnifique. Une approche plus moderne ou plus postmoderne dans nos choix fondamentaux de vie, parce que finalement c'est un peu vieillot, etc. Pourquoi pas avoir une approche plus inclusive, c'est la mode, face aux dérives morales de la société? Pourquoi être exclusif? Il faut être inclusif, il faut accepter tout et puis s'arranger pour que ça aille ensemble. C'est un peu ce qu'Abner a essayé de faire, hein. Et le pire de tout, alors là, pourquoi se considérer comme saint? Je répète la définition, mis à part et consacré au Seigneur. Non mais ça c'est de là, hein, quand même. Bah, le problème c'est ce que la Bible dit, on est mis à part, on est différent, ambassadeur de Christ. Et il faut vivre en fonction. Sel et lumière. Sel et lumière. Est-ce que je suis sel et lumière? Est-ce que j'ai besoin d'être sel et lumière? Je ne peux pas vivre ma vie tranquille sans être sel et lumière. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être sel et lumière? Vous savez, je me souviens quand j'étais adjoint au maire et que les conseils municipaux se passaient mal. Ça arrivait. Et je sais que Florence va commencer à vivre ça. Et ben, je me mettais à prier. C'était curieux, mais ça se calmait. Les choses se calmaient. Les gens retombaient à peu près d'accord. Bon, jamais complètement, l'humain est humain. Mais c'était gérable. Et on finissait à une heure raisonnable. Bah oui, on est sel et lumière. Et au début, je ne me rendais pas compte. Puis quand j'ai quitté le conseil, après 25 ans, et que j'ai vu la zoubida dans ce conseil, je me suis dit, mais c'est vrai, il n'y a plus personne qui prie maintenant. On est sel et lumière. J'ai mis du temps à réaliser ça, parce que je trouvais ça un peu orgueilleux quand même, parce que j'étais là, tout allait bien. Non, non, mais parce que je priais. Et quand on prie pour son village, quand on prie pour son entreprise, quand on prie pour le conseil d'administration de son entreprise, quand on prie, je ne sais pas, suivant où vous êtes, parents d'élèves ou des choses comme ça, eh bien, il y a des choses qui changent. Florence en a fait l'expérience cette semaine, je suis contente, il n'y a pas que moi. Mais vous l'avez certainement vécu dans votre travail déjà. On essaie les lumières. Alors, bah oui, ça vaut le coup de se poser pourquoi, la question. Pourquoi je suis appelée à être celle et lumière? Et j'ai pensé que ces questions-là, ce serait bien que vous les travailliez au groupe de jeunes ou dans les groupes d'école du dimanche, parce que ce sont des bonnes questions. Et si les jeunes, vous avez d'autres questions comme ça, n'hésitez pas à les poser, ce ne sont pas des questions bêtes, ce sont des questions intelligentes. Il faut se poser pourquoi. Et allez voir Olivier, il vous expliquera pourquoi c'est important de se poser le pourquoi. Mais ce sont des questions à travailler honnêtement, très honnêtement. Parce que si Abner s'était posé cette question-là, ben il ne serait certainement pas mort assassiné entre deux murailles. Il a mis trop de temps pour arriver à cette question-là. La Bible répond à nos questions. Elle est applicable à tous et à toutes les époques. Alors les supports sont différents, les méthodes sont différentes. J'enseigne pas comme Spurgeon. J'aimerais bien, parce qu'il faut voir ce qu'il a fait, Spurgeon. Mais à chaque époque, on a une façon d'enseigner, on a une façon de présenter les choses. Olivier aime bien les post-it et d'autres, mais pourquoi pas? Le problème, ce n'est pas la méthode, c'est le fond. La méthode change avec les époques. Et je voudrais juste vous rappeler, parce que je sais que mes jeunes le savent, je leur ai cassé les oreilles avec ça, la Bible, elle est même en avance sur son temps. Je vais m'arrêter là. La Bible, elle est même en avance sur son temps. Lisez l'Épître à Philémon. Elle est sérieusement en avance sur son temps. Paul était fou d'écrire ce qu'il a écrit. C'était risqué. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Ton esclave s'est enfui, mon cher, c'était Onésime, hein, c'est ça? Ton esclave s'est enfui. Il a donné son cœur au Seigneur. Je m'en suis occupée. Reçois-le comme un frère. À cette époque-là, un esclave, les esclaves, c'était les gens. À l'époque, c'est pas une question de couleur, c'était une question de les ennemis qu'on avait vaincus dans une bataille. En général, c'était ça. Alors, les vivants, en bonne santé, on se les gardait comme esclaves. Et qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Reçois-le comme un frère. Traiter un esclave. On avait droit de vie ou de mort sur ces esclaves. Et personne ne contestait ça. C'était un fait politiquement correct de l'époque. Et Paul va aller jusqu'à dire, reçois-le comme un frère. Waouh! Si ce n'était pas en avance sur son époque, j'aurais bien aimé que les Américains du siècle dernier entendent ça. Mais oui, la Bible, elle est, quand on la creuse, elle est en avance sur son temps. Abner ne s'est pas tourné vers la parole de Dieu qui avait été donnée par Samuel. Mais nous, on est décidés à se tourner vers la parole de Dieu. On ne va pas rester sur l'horizontale. On va appeler ce que Dieu veut nous dire. Et je crois que c'est vrai dans nos vies à tous, on va faire cet effort, et pour les adolescents particulièrement, j'y pense, c'est ce qu'ils doivent apprendre maintenant, expérimenter que ce qui vient de Dieu va changer leur vie. Ne restez pas sur ce niveau-là. Posez-vous des questions et cherchez le pourquoi auprès du Seigneur. Amen.